Vous écoutez
RMC. RMC, le Mosca.
C'est une info qui vient de tomber. La DNCG a pris une lourde sanction contre les Girondins de Bordeaux, exclus de toute compétition nationale. On va faire le point et surtout on va essayer de comprendre cette info avec David Glusman de l'After, spécialiste des Girondins, alors qu'il connaît le dossier sur le bout des ongles. Salut David.
Salut David. Allô.
Salut. Moi, le bout des doigts, le bout des ongles, tout ce que vous.
Alors, on a une liaison qui n'est pas au top, j'ai l'impression. Donc.
Je ne sais pas si je voterai pour vous, monsieur Guzman.
On va. Oh, tu peux faire une forme, ça. Alors, on va essayer de ne pas interrompre David parce que j'ai l'impression qu'il y a un énorme délai. Qu'est-ce que ça signifie, cette info, pour les Girondins de Bordeaux, David?
Ah merde.
Bah déjà en fait, il faut savoir que cette décision elle est pas définitive. Ça signifie que à l'heure actuelle, la DNCG qui ne juge et qui ne joue.
Bon. Alors, on va recommencer.
Ça, c'est bon. C'est-à-dire à faire face à ses futures dépenses d'exploitation, n'en est pas capable. Il n'en est pas capable. Pourquoi? Car Gérard Lopez, encore une fois, s'est défaussé. Il avait promis notamment devant le tribunal de commerce pour garantir l'exécution du plan de continuation, qu'il allait mettre l'argent, donc on parle de 9 millions d'euros, entre le montant du plan et le montant de l'exploitation de la saison, pour financer la prochaine saison. Il a trouvé un partenaire capital, qui est un fonds d'investissement, qui lui allait devoir justement mettre ce montant. Pourquoi Sparta Capital n'a pas mis ce montant? Car ils ont décidé de faire du chantage à Bordeaux Métropole qui détient le stade et le haillon. On sait très bien que...
Bon, ça va pas. Je suis désolé, David, je suis obligé de t'interrompre parce que ça coupe de trop souvent. Donc, on a du mal à suivre. On va essayer de rappeler David. D'abord, on retient que la décision n'est pas définitive. Donc, je pense qu'il doit y avoir un délai pour apporter les 9 millions. Ce qui est très flippant, c'est de se dire qu'il y a encore un trou de 9 millions à combler pour les Girondins, Vincent. Et puis, le risque, là, c'est de repartir en régional. Hein.
C'est très flippant parce qu'à ce niveau-là, trouver 9 millions, déjà en première division, trouver 9 millions, je ne sais pas s'il y a 80% des clubs qui ne sont pas capables de les trouver. Parce que c'est beaucoup, beaucoup d'argent, 9 millions. Parce que là, maintenant, on est dans des prix, maintenant, avec le PSG, la Coupe d'Europe, les machins, la Coupe du Monde, on parle de millions comme s'il en pleuvait. Mais pour un club du championnat, et imagine qu'il évolue en 3e ou 4e division, trouver 9 millions. Mais c'est ils sont condamnés.
Là, si tu repars en Régional 1, Vincent, sans que c'est amateur, c'est et c'est la 6e division. L'équivalent de la 6e division pour les Girondins.
C'est terrifiant. Ça veut dire que pendant toute l'année ou les deux ans, ils sont à crédit, quoi. Ça veut dire que l'économie n'existe pas. Donc c'est que du bluff, encore une fois. C'est ralent, parce que moi, les Girondins Bordeaux, ça fait partie du paysage footballistique de la France. Ça doit être un club qui doit être en première division professionnelle. Tu vois, il peut avoir un accident, ça arrive, tu descends en deuxième division, mais là, ils sont descendus déjà en cinquième ou en sixième. Si ça repart en arrière, j'ai bien peur que, tu vois, on dit les grands clubs ne meurent jamais, mais au bout d'un moment, quand même, c'est compliqué.
Eric.
Bah écoute, ça fait un peu froid dans le dos parce que tu te rends compte que un club historique, légendaire comme les Girondins, quand tu tombes sur un investisseur
pas fiable,
pas fiable. Je savais pas comment je veux pas l'insulter ni le truc, mais bon, pas fiable. Voilà, c'est très bien, ça, Adrien. Il peut aller au bout et faire disparaître ton club, quoi. Alors moi, je pense que ça va s'arranger, que ce club-là peut pas disparaître, ou en tout cas qu'ils arriveront peut-être à trouver la solution. Enfin, je l'espère en tout cas pour les Girondins.
9 millions, Eric.
Oui. Non, mais c'est peut-être le moment justement d'y rentrer dans ce truc-là. Ou alors peut-être que il y a certains investisseurs qui attendent qu'ils soient au fond du trou pour y aller.
Ça existe, mais ça. Hein.
Oui, ça existe, bien sûr, parce que en réalité, malgré tout, comme c'est un club qui peut être
amené légendaire,
et tous les ans, si tu travailles bien, parce qu'il y a un bassin économique, il y a une histoire, donc peut-être qu'il y a des gens qui font le pari sur le club qui descend, quoi. Mais je veux pas y croire, donc j'espère que ça va bien se
passer. J'imagine que Gérard Lopez, qui est le propriétaire toujours du club, hein, a failli racheter l'OM à l'époque. Hein.
Ouais, finalement, vous en sortez pas si
Gérard Lopez, était en concurrence avec Franck Macron pour acheter l'OM il y a 10 ans. C'est fou.
C'était même fait.
C'est génique.
Moi, je vais te raconter le truc. Je voulais jamais raconter, mais j'ai reçu un coup de fil pour me dire que ça y est, il a acheté le club et que, et là, je déconne pas, il voulait que, il cherchait des anciens pour travailler avec lui. Et pour,
ah ouais.
C'était fait. Moi, la personne qui m'a appelé m'a dit, c'est fait. C'est fait et il faisait un tour de table pour savoir qui
est-ce que je dis.
Non mais c'est pour ça que
Margarita Wittrefus a eu un éclair de lucidité.
Exactement,
hein,
c'est pour ça que nous, dans notre. On aime bien. Mais bien sûr que la famille Wittrefus à ce moment-là aurait pu aller au plus offrant ou à celui qui arrivait en premier ou à celui qui chantait le mieux et que le choix de prendre notre actionnaire aujourd'hui a été judicieux pour la pérennité du club, même si ça marche pas très bien.
On en reste là et probablement qu'on en saura plus demain et donc on vous donnera plus d'infos dans le Super Moscato Show, mais vous écoutez également Rotten sans flamme pour en savoir plus sur les Girondins. On revient à la Coupe du Monde avec cette victoire difficile du Brésil face au Japon, un Neymar qui n'est pas entré en jeu, il n'a pas joué une seule minute alors que son équipe avait besoin de marquer. Carlo Ancelotti a fait deux changements offensifs, un à la mi-temps, Paqueta blessé remplacé par Hendrick, puis Martinelli à la place de Cunha à la 66e. Il n'a utilisé que quatre remplacements, il lui en restait donc un. Pourquoi pas une seule minute pour Neymar ?
Avec Neymar, nous avions discuté. Si nous n'avions pas égalisé autour de la 60e minute, je comptais le faire entrer. Nous pensions aussi à la prolongation pour l'utiliser parce qu'il était prêt et en bonne condition. Finalement, comme nous avons marqué, Neymar n'est pas entré, mais tout était clair avec lui.
Alors, ils ont égalisé à la 56e et marqué le but de la victoire dans les arrêts de jeu. Avec un des entrants offensifs quand même. Donc je suis pas sûr que Carlo Ancelotti.
Mais si, il a fait le pari de le faire jouer toute la prolongation et d'être déterminant.
Ça
veut dire qu'il a pas plus de 30 minutes dans les jambes. C'est-à-dire que Carlo pensait qu'il allait exploser s'il rentrait avant.
Là, on va être exposé à ce problème-là pendant tous les matchs d'élimination directe, parce que en réalité, Neymar, on va le voir sur le terrain 20 minutes, soit il gagne 2-0, ou soit il faut remonter, comme l'a dit Ancelotti, sur la fin, un résultat. Mais là, sur le match hier soir et sur peut-être les prochains matchs du Brésil, quand ça va être décidé, qu'il peut y avoir une prolongation, ben il l'utilisera pas. Ça veut dire que en réalité, il a plus d'un quart d'heure dans les jambes, il a un quart d'heure dans les jambes, sûrement. Et encore, il est même pas sûr, du coup.
Oui, mais moi, je pense qu'il y a une gestion aussi de Neymar. Donc, même s'il ne l'a pas fait rentrer là, moi, je ne suis pas inquiet, il peut devenir titulaire plus tard. Denis.
Il
n'y a pas de gestion de mec, c'est quand tu es à deux doigts de perdre, quand même.
C'est pour ça que
parce que le match après, il n'y en a plus.
Exactement. S'il pensait que Neymar pouvait faire basculer le rencontre, il aurait joué hier, je pense.
Exactement. Mais c'est pour ça qu'à un partout, s'il est.
Il ne repose pas.
S'il a une mi-temps ou s'il n'a pas de soucis, s'il est capable de. Tu peux faire un match de Coupe du Monde sans pouvoir faire 90 minutes. Sauf que si dans un match comme hier soir, à un partout, tu ne prends pas le risque de le faire rentrer parce que tu te dis, je vais aller aux prolongations, c'est là peut-être. Ouais. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à jouer un match de haut niveau. Voilà. Et Denis, comment tu peux dire qu'il a joué l'autre jour,
titulaire? Il a 20 minutes.
Dans un match où il n'y avait rien à jouer.
Je n'ai pas la même lecture.
Le score était fait.
J'ai pas la même lecture que toi.
Ah ben, alors explique-moi la pertinence de pas le faire jouer hier soir quand tu dois gagner le match. Explique-moi.
Non, mais la lecture, c'est que Ancelotti, il a été pris par le contexte du match, tout simplement, et qui s'est dit, je le fais jouer les 20 minutes de la prolongation pour qu'il fasse la différence. Moi, je la vois
comme ça. Et pourquoi il le fait pas? Alors, explique-moi.
Parce qu'il le préserve pour la prolongation et pour les tirs au but.
Ah, d'accord. Et bien, quoi, puisque le fait minutes avant la fin du match. Et voilà, comme ça, il va pas prolongation, comme ça.
Ce qui est terrible, c'est qu'il doit se dire 20 plus 30.
Oui, voilà.
C'est pas possible.
Donc,
c'est pas possible.
Non. Et puis, il dit, s'il y a les tirs au but, il faut qu'il fasse 20 plus les tirs au but. Regardez, ça
lui fait. Allez, on en reste là. Il s'est entraîné au tir au but.
On retourne à Wimbledon.
Il le faisait rater pour les tirs.
Alors, Wimbledon, où Novak Djokovic a allumé une polémique sur le circuit et l'organisation des matchs de tennis hier. Eric Salio, tu vas tout nous raconter. Après sa qualif pour le deuxième tour, il a fait une longue tirade très critique, notamment sur les Masters 1000. De quoi s'agit-il exactement, Eric?
Oui, le Serbe est convaincu que les Masters 1000, qui maintenant se déroulent sur 12 jours, hein, vous le savez, c'est une fausse bonne idée. Ça prive notamment les joueurs de périodes de décompression, de récupération, et c'est pas un hasard non plus s'il y a autant de blessés.
Moi, j'ai toujours été contre ce format. Ajouter 4 jours de compétition, ça génère bien plus de valeur pour les organisateurs que pour les joueurs.
Novak Djokovic aime aussi à s'appuyer sur une étude qui affirme que la moyenne d'âge des fans est de 61 ans, donc il veut chercher une clientèle beaucoup plus jeune.
À mon avis, il faut changer le format du circuit, faire en sorte que les matchs des tournois soient plus courts, plus dynamiques, proposer quelque chose de plus intéressant et de plus court, parce que c'est vraiment trop long. Les tournois du Grand Chelem, c'est différent, les matchs au meilleur des 5-7, ça me va. Je pense qu'au moins sur le circuit, on peut faire des essais, il le faut.
Ouais, on voit qu'il a une âme de syndicaliste. Maintenant, on sait que le contrat avec les Masters 1000, ils ont été signés sur 30 ans.
Oh là là,
ça va être dur de faire bouger les choses.
Non mais par contre, c'est vrai que ces tournois sur 12 jours, ce ne sont pas des grands tournois comme Wimbledon et Roland-Garros. Et c'est vrai que c'est trop long. C'est la vérité. Hein.
Il a raison.
Est-ce qu'il faut réformer le tennis, Vincent?
Ouais, je suis pas assez spécialiste, mais enfin, il me semble que des tournois pour des masters qui durent 12 jours, c'est beaucoup trop. Comme toi, je pense qu'il faut à un moment donné que ce soit plus court, ce soit sur 4, 5 jours, 6 jours maximum. Et puis il faut préserver les mecs, parce que de plus en plus, ils ont des tournois. Et puis tu vois de plus en plus d'Arthur Fils et tout ça qui se pète. Très jeune, des douleurs au dos. C'est des douleurs au dos, en général, c'est des maladies de vieux. Là, les mecs, ils ont 21 ans, ils ont tous des douleurs au dos. Il y a une autre nana qui avait une douleur au dos aussi. Enfin bon, ce qui veut dire qu'ils sont surmenés. Donc je crois que pour la qualité, il faut que les mecs soient en forme et puis ça saoule quoi, de rester 12 jours sur un tournoi, un aspro,
c'est ça. Non, mais surtout qu'en fait ça étire pour pas grand chose parce que tu n'as pas plus de bons moments. C'est ça qui est nul. C'est que les bons moments, ça démarre en gros sur les quarts de finale, demi-finale, les trois derniers jours de tournoi. Donc quand tu démarres le lundi, t'as 4 jours à attendre. Ouais. Quand tu démarres le jeudi précédent, c'est une semaine.
On est dans un monde où tu regardes une série, quoi. Les mecs, quand ils doivent faire un film d'une heure et demie, ils en font 8 épisodes de 50 minutes. C'est comme ça, toi. Voilà. Là, des trucs qui te font jouer la Coupe du Monde 48, ça va passer à 64 au football. Bah, écoute-moi, là, c'est tout paravolo, quoi.
Heureusement qu'on va disparaître.
Heureusement que le journal.
Non, mais je te le dis.